Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « De la stratégie en entreprise est un essai de management construit sous la forme d'une conversation entre Xavier Fontanet et Pierre Pupier ». Fontanet immobilise son expérience de dirigeant, notamment à la tête de Essilor, tandis que Pupier conduit l'échange depuis son regard d'entrepreneur et d'investisseur. Le livre ne propose pas un traité académique ni une recette universelle de pilotage. Il cherche plutôt à rendre la pensée stratégique intelligible à partir de décisions, de contraintes concurrentielles et de situations vécues dans des entreprises de taille diverses. Son objet central est la manière de créer durablement de la rentabilité et de la croissance dans un environnement concurrentiel. Les échanges abordent aussi la mobilisation des équipes, le rôle de l'innovation et les choix qui donnent une cohérence à l'action collective. Le parcours professionnel de Fontanet, du conseil à la direction de PME puis de grands groupes, sert de fil conducteur. Cette approche concrète vise les dirigeants, cadres, entrepreneurs et étudiants qui veulent relier les concepts de stratégie aux arbitrages réels de l'entreprise. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, comprendre les concurrents avant de décrire abstraitement le marché. Une idée structurante attribuée à Xavier Fontanet consiste à faire de la compréhension du concurrent le point de départ de la stratégie. Cette orientation ne nie pas l'importance du marché, de ses clients ou de ses évolutions. Elle rappelle que la performance dépend aussi de rapports de force précis entre entreprises qui poursuivent les mêmes occasions de croissance. Une analyse trop générale du marché peut produire des constats utiles mais insuffisants pour décider. Le dirigeant doit identifier les atouts, les faiblesses, les priorités et les contraintes des acteurs auxquels il se confronte. Il peut alors mieux distinguer les terrains où il dispose d'une différence défendable, de ceux où une rivalité frontale serait coûteuse. Le livre présente cette pensée comme une discipline de décision plutôt que comme un exercice de vocabulaire. Elle oblige à examiner la position réelle de son entreprise, ses capacités commerciales, opérationnelles et financières, ainsi que celles des autres. Dans cette perspective, la stratégie consiste moins à annoncer une ambition qu'à choisir une trajectoire compatible avec une compétition concrète. Le bénéfice pratique est de rendre les décisions de croissance, d'investissement ou de partenariat plus cohérentes. Cette focalisation explique aussi pourquoi les concepts exposés peuvent concerner une PME, une entreprise de taille intermédiaire ou un grand groupe, malgré des ressources et des marchés très différents. Deuxièmement, faire de la rentabilité une condition de liberté stratégique. La rentabilité figure parmi les questions majeures examinées dans le livre, non comme un indicateur isolé, mais comme une condition qui permet à l'entreprise de choisir et d'agir. Une organisation incapable de dégager des ressources dépend davantage de ses financeurs, de ses clients dominants ou de décisions défensives imposées par urgence. À l'inverse, une base économique solide rend possible les investissements, le développement des compétences et les réponses aux initiatives concurrentes. Les sources associées au livre signalent notamment l'importance accordée à une attention rigoureuse au cash. Cette insistance éclaire une vision opérationnelle de la stratégie. Une promesse de croissance ne vaut pas seulement son volume potentiel, elle doit aussi être examinée selon les moyens qu'elle absorbe et les flux qu'elle génère. Le raisonnement évite ainsi de confondre progression du chiffre d'affaires et création de valeur durable. La discussion est particulièrement pertinente pour les dirigeants confrontés à des arbitrages entre expansion, amélioration des processus et préservation des marges. Elle invite à relier les décisions commerciales aux réalités de production, de distribution et de financement. Le livre ne réduit donc pas la stratégie à la finance, mais il refuse de séparer la vision concurrentielle de ses conséquences économiques. La rentabilité devient le test de cohérence qui transforme une intention stratégique en capacité effective de durer. Troisièmement, lire la croissance à travers les choix de positionnement et d'exécution. Le livre traite la croissance comme une question stratégique qui demande davantage qu'une volonté de vendre plus. À travers les étapes de carrière de Xavier Fontanet, il montre que le développement d'une entreprise suppose de choisir où concentrer ses efforts et comment exécuter ses choix dans la durée. La croissance peut provenir de nouveaux territoires, de nouvelles offres, d'une amélioration de la distribution ou de coopération adaptée au contexte concurrentiel. Toutefois, chaque piste comporte des exigences distinctes en matière de compétences, de capitaux et d'organisation. L'intérêt de la conversation avec Pierre Pupier est de replacer ces questions dans des entreprises réelles, depuis la PME jusqu'au groupe international. Le lecteur est ainsi conduit à considérer la taille non comme une garantie, mais comme une conséquence de décisions répétées et correctement articulées. Le parcours de Essilor est évoqué comme expérience de transformation et d'internationalisation, sans prétendre que son modèle puisse être reproduit mécaniquement. La leçon utile est méthodologique. Il faut rechercher une croissance qui prolonge les capacités distinctives de l'entreprise au lieu de disperser ses ressources. une expansion mal ciblée peut fragiliser la rentabilité et diluer la proposition de valeur. À l'inverse, un positionnement clair facilite la priorisation des marchés, des investissements et des équipes. La stratégie apparaît alors comme un moyen de relier ambition de croissance, discipline de sélection et qualité d'exécution. Quatrièmement, étendre l'innovation aux métiers, aux processus et aux équipes, l'ouvrage défend une conception large de l'innovation. Celle-ci ne se limite pas à une découverte technologique ou à la création d'un produit spectaculaire. Dans une entreprise, les occasions de progrès peuvent concerner la conception, la fabrication, la logistique, la distribution, la vente, les fonctions financières ou juridiques. Cette approche est cohérente avec l'expérience industrielle et commerciale évoquée autour de Essilor, où la valeur résulte d'une chaîne de métiers interdépendants. Elle conduit à une conséquence managériale importante. Si l'innovation peut surgir à de nombreux niveaux, la direction ne doit pas seulement chercher des idées au sommet de la hiérarchie, elle doit organiser les conditions qui permettent aux collaborateurs de comprendre les enjeux, de prendre des initiatives utiles et de faire circuler les apprentissages. La formule, selon laquelle chacun peut devenir stratège, ne signifie pas que toutes les décisions doivent être centralement abandonnées. Elle souligne que la stratégie gagne en qualité lorsque les personnes proches des clients, des opérations ou des difficultés concrètes disposent d'un cadre et de moyens pour contribuer. Le livre lie ainsi innovation et motivation des équipes. Donner du sens aux choix concurrentiels permet de dépasser une vision purement administrative du travail. La contribution individuelle devient plus pertinente lorsque chacun peut voir comment son activité influence la qualité, le coût, la différenciation ou la relation client. Cette vision transforme l'innovation en pratique collective et continue. En dernier lieu, apprendre la stratégie par les situations plutôt que par les seuls modèles. La forme même de la stratégie en entreprise constitue une part essentielle de sa proposition. Pierre Pupier interroge Xavier Fontanet et organise le livre autour d'un parcours professionnel, ce qui donne aux idées une dimension de retour d'expérience. Le lecteur ne reçoit pas seulement des définitions de la rentabilité, de la croissance ou de la concurrence. Il observe comment ces enjeux prennent forme dans des contextes marqués par l'incertitude, les différences de taille d'entreprise et les décisions humaines. Cette pédagogie par situation explique le caractère accessible souvent attribué à l'ouvrage. Elle ne remplace pas les outils analytiques traditionnels, mais elle montre leurs limites lorsqu'ils sont détachés de l'exécution. Une stratégie doit être comprise, portée et ajustée par des équipes confrontées à des contraintes concrètes. Le format conversationnel favorise aussi les questions que se posent les praticiens, notamment sur l'origine des profits, le choix des priorités et la mobilisation collective. Le livre se distingue ainsi des manuels qui présentent des cadres conceptuels sans éclairer leur mise en œuvre. Il ne faut pas pour autant le lire comme une biographie exhaustive ou comme une succession de réponses définitives. Sa valeur réside dans le lien entre principes généraux et expérience de direction. Cette orientation est prolongée par les dispositifs pédagogiques associés à Fontanet, notamment le Serious Game Stratena, qui traduit la conviction que la stratégie se comprend aussi par la simulation, l'arbitrage et l'analyse des conséquences de ses décisions. En conclusion, de la stratégie en entreprise s'adresse en priorité aux dirigeants de PME, d'entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes, mais aussi aux cadres appelés à participer aux décisions de développement. Les entrepreneurs y trouveront un cadre utile pour relier concurrence, rentabilité, croissance et organisation, sans séparer la réflexion stratégique des contraintes quotidiennes. Les étudiants et jeunes professionnels peuvent également y gagner une représentation plus concrète de la vie des entreprises que celle fournie par les seuls modèles académiques. Le principal apport du livre tient à son effort de traduction. Il rend des questions parfois abstraites, telles que le positionnement, la création de valeur ou l'innovation, à partir d'un dialogue et d'un parcours de dirigeant. Cette forme ne dispense pas le lecteur d'un travail d'analyse de son propre contexte, car les solutions évoquées ne sont pas des formules transposables à volonté. Elle aide en revanche à poser de meilleures questions sur les concurrents, les ressources disponibles et les priorités à retenir. Par rapport à de nombreux ouvrages de management, celui-ci se distingue par son ancrage explicite dans l'expérience française de direction, tout en revendiquant des principes applicables à plusieurs tailles d'entreprise. Son ton pédagogique et sa préférence pour les situations de terrain le placent entre le témoignage de dirigeant et le guide de réflexion. Il conviendra surtout aux lecteurs qui recherchent des repères opérationnels, des mécanismes économiques clairs et une compréhension moins théorique de la stratégie. Si vous souhaitez soutenir Xavier Fontanet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!